9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bonjour à tous, auditeurs de Beurre FM, Maître Serran est ravi de vous recevoir pour une petite heure de questions-réponses, et ce, quelle que soit la nature de vos questions. Ai-je besoin de préciser que vos questions devront être liées exclusivement au droit, bien évidemment, droit de la famille, droit des étrangers, droit de la propriété, droit du travail, bref, du droit, rien que du droit. Et puis, bien évidemment, si par extraordinaire je n'étais pas en mesure de vous apporter une réponse motivée, je ferai des recherches pour vous afin de satisfaire votre demande. Mais avant de se lancer dans ce jeu de questions-réponses, évoquons l'actualité de la semaine. Et parmi cette actualité, j'ai sélectionné les déclarations du chef de l'État dans une interview au Point concernant l'Algérie, lequel chef de l'État a déclaré refuser de demander pardon à l'Algérie pour les atrocités commises par les forces françaises pendant 132 ans. Surprenant, alors que ce dernier avait, lors de sa campagne présidentielle en 2017, reconnu que la colonisation de l'Algérie était un crime contre l'humanité. On passe avec ce président du tout au rien. Mais quel foutage de gueule à la place du chef de l'État algérien. J'aurais fait comme les Russes, fermeture du robinet de fourniture de gaz et de pétrole. Allez, va te chauffer avec du bois et paie ton litre d'essence 5 euros. On verra bien si tu continueras à faire le fier. Et pourtant, il n'y aurait rien d'extraordinaire à présenter ses excuses. Je me doute bien qu'il n'est pas si simple de s'excuser au nom de la France, mais une fois les excuses prononcées avec sincérité, le président aurait tout simplement ouvert la voie à la réconciliation. La Belgique l'a fait. Le Premier ministre belge Charles Michel avait présenté ses excuses officielles aux enfants des colonies. Le 26 mai, l'Australie célèbre le National Sorry Day, la journée nationale du pardon, instaurée en 1998 pour faire connaître les blessures causées aux familles indigènes. Bon, en même temps, nous, Algériens, on se comporte comme des colonisés, on est là, attend le pardon de la France, comme dans les films de Tarzan. Oui, buona, oui, buona. Alors que des procédures existent pour faire reconnaître la notion de crime contre l'humanité durant cette période, et c'est pas faute de vous en avoir parlé à plusieurs reprises. Allez, passons à une actualité beaucoup plus légère, mon cher Philippe, la rupture entre Shakira, la bomba latina, avec le footballeur espagnol Gérard Piqué, joueur...
Mais c'est vieux, ça.
Oui, mais laissez-moi terminer. Alors... du FC Barcelone, après qu'elle ait découvert son infidélité. Alors, que peut-il bien se passer? Dans la tête de certains hommes, cet individu a laissé sa compagne Shakira pour une jeunette, certes, mais loin d'égaler la plastique de son ex. Et permettez-moi de reprendre les paroles de la dernière chanson, d'où l'actualité, mon cher Philippe, de la dernière chanson de Shakira qui résume parfaitement la situation de beaucoup d'hommes. « Je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures ou me supplies, tu as échangé une Ferrari » contre une Twingo, une Rolex contre une Casio, c'est tellement vrai. Et là, tout est dit, car il est de notoriété publique que quand un homme trompe sa femme, c'est généralement avec un boudin, allez savoir pourquoi. Allez, que vous soyez avec un boudin ou pas, n'hésitez pas à nous appeler au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui a refusé de se donner à Shakira, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Je suis beaucoup trop vieux pour elle, Maître Serran.
Ouais, bah c'est ce qu'a fait Piqué. Il a pris une petite jeunette et puis il a laissé Shakira. Allez comprendre la logique.
Mais ce que je vois pas, c'est ce que ça vient faire dans votre chronique.
Rien.
Non, parce que vous vous intéressez.
Mais bah oui, parce que le
en règle générale. Vous allez remplacer Mona maintenant.
Non, pas du tout. Mais en règle générale, et je le vois dans mon entourage, ceux qui trompent leur femme. La femme avec qui ils ont construit leur vie de tous les jours, la femme avec qui ils ont eu des enfants, et ensuite ils vont tromper madame, et ils trompent généralement quand vous découvrez la personne avec qui, enfin la nouvelle personne avec qui ils se trouvent, et ben ce sont des femmes. Alors pardon, il faut parler un peu physique, mais moins belle physiquement, moins sympa, moins agréable, et ils comprennent pas qu'en fait, en règle générale, c'est plutôt pour l'argent que madame, enfin la deuxième madame
non.
vient avec monsieur.
Oh, non.
Voilà, et rien d'autre. Vous voyez, moi ça me... et ça marche toujours. Bah ouais, ça marche toujours. Je généralement, quand on découvre ce genre d'histoire, donc je dis qu'il ne faut jamais lâcher son premier amour. Jamais.
Ouais, d'ailleurs, vous me racontiez ce matin en aparté des histoires sur vos premiers amours,
oui,
vos premiers amours, Maître Serran.
Et... mais avant mon mariage et tout ça, on est d'accord.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, avant votre mariage.
Il y a prescription depuis des siècles et des siècles.
Ah, quand vous le racontiez, vous le viviez bien.
Non, c'était il y a au moins... au moins... Et alors, je me suis marié en quelle année?
92.
En 98.
98.
Ouais.
98 camarades.
Ça fait 24 ans, 25 ans que vous êtes
mariés. Ouais, 25 ans. Donc toutes les histoires, et j'ai rencontré mon épouse 2 ans avant.
D'accord.
Donc voilà, donc toutes les histoires que je peux éventuellement vous raconter.
C'était avant, oui.
Voilà, c'était largement avant. Je devais avoir 12-13 ans. Comme ça, je ne prends pas de risque.
Bien, 01 53 48 3000, vous interrogerez Maître Serane sur les questions juridiques dans un instant au standard de Beurre FM, mais nous allons parler d'un document dont l'acronyme est DCEM, le document de circulation pour étrangers mineurs. Alors, c'est quoi ce document et à quoi il sert ?
Alors, avant ce document, on utilisait un autre terme, hein, le titre d'identité républicain. Et c'est alors ce titre d'identité républicain a disparu, donc est remplacé par ce nouveau document. Alors à quoi il sert ? D'abord, il concerne qui ? Il concerne les enfants de personnes qui elles-mêmes bénéficient d'un titre de séjour, d'une carte de séjour. Donc ce sont des enfants étrangers. Parce que si, par extraordinaire, l'un de vos parents était de nationalité française, évidemment, vous n'êtes pas concerné, vous pouvez vous-même bénéficier de cette nationalité. Alors, c'est un document, quand vous êtes sur le territoire français, qui n'est pas obligatoire, qui, j'allais presque dire, ne présente pas d'intérêt particulier. C'est un document qui ne peut être utile que si vous, enfant, vous quittez le territoire français. Si vous partez en vacances, par exemple, il faut savoir que dans la mesure où vos parents sont étrangers, vous-même vous êtes étranger, si vous souhaitez revenir sur le territoire français, parce que c'est le domicile de vos parents, donc c'est votre domicile, mais si vous partez sans ce document et que vous souhaitez revenir sur le territoire français, ben vous allez être soumis à une demande de visa. Donc quand on sait les procédures, le timing qu'il faut pour déposer un dossier de demande de visa, et puis en règle générale, c'est assez surprenant, mais même quand vous justifiez que vous demeurez très régulièrement sur le territoire français, vous avez des réponses négatives. Une réponse négative, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans cette émission, une réponse négative, ça veut dire une procédure, et ce sont des procédures qui sont très longues. Donc pour éviter de se retrouver dans des difficultés pas possibles, il faut que les parents sollicitent au nom de l'enfant donc ce fameux document qui permettra à l'enfant de revenir sur le territoire français sans avoir à justifier de quoi que ce soit.
C'est un visa longue durée, donc c'est,
on peut l'interpréter comme ça, puisque ça vous permet effectivement de faire des allers-retours sans avoir à passer justement systématiquement par la case demande de visa. Alors on s'en rend pas compte comme ça, mais ça me semble moi toujours surprenant, mais on est parfois contacté par des familles qui nous disent je suis parti en vacances et puis voilà ce qui se passe, donc mon enfant est bloqué, qu'est-ce que je dois faire ? Alors pourquoi je suis étonné ? Parce que je pensais sincèrement que c'était, j'allais presque dire, entrer dans les mœurs. Encore une fois, au préalable, on avait ce fameux titre républicain. Donc c'est pas un document qui est sorti hier et que tout le monde découvre. Donc comprenez bien que si vous êtes étranger, votre enfant est étranger, vous quittez le territoire français, faites en sorte d'avoir ce document, sinon ça va être une vraie galère. Parce qu'en règle générale, quand c'est comme ça, il y a toujours l'un des parents qui va rester avec l'enfant, puisque très souvent, c'est un pays, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'il ne connaît pas, mais qu'il ne connaît pas aussi bien ou qu'il ne connaît plus. Donc ça peut bouleverser quand même la vie d'une famille. C'est un document qui n'est pas, alors j'allais dire, très compliqué à solliciter. Alors là, on est dans la théorie.
Alors maintenant, on est dans la dématérialisation.
Alors voilà, c'est-à-dire que tout se fait, exactement, donc tout se fait via Internet. Alors, on nous dit, on nous promet que... alors d'abord, on nous l'avait promis pour les titres de séjour, cartes de séjour, et puis c'est une galère pas possible. Mais là, on nous dit que c'est beaucoup plus simple d'obtenir ce titre via Internet. La règle étant qu'en principe, alors je dis bien en principe, c'est accordé sans difficulté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous justifiez...
Vous êtes sur le territoire, voilà, en situation régulière.
Voilà. Ah ouais, alors voilà, ça c'est important, ouais. Puisqu'il faut évidemment, et c'est un préalable, que les parents soient en situation régulière. Donc si les parents sont en situation irrégulière, la question ne se pose pas pour l'enfant. Donc il faut que les parents soient en situation régulière. Donc on se dit que les règles sont simples, les parents sont en situation irrégulière, mon enfant est également sur le territoire français. Il se trouve, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça qu'on a parfois des décisions négatives qui sont notifiées par les autorités préfectorales. Alors, en principe, là encore, on est toujours dans le principe avec les préfectures, ces décisions doivent être motivées. C'est-à-dire qu'on doit vous dire, écoutez, je refuse pour telle ou telle raison. Sachez tout de même que qu'à partir du moment où on vous notifie un refus, quel que soit le motif, vous avez évidemment la possibilité de contester ce refus. On a une demande qui est faite auprès de la préfecture, il faut attendre un délai de 2 mois, et si au bout de 2 mois, il n'y a pas de réponse, on est dans ce qu'on appelle un refus implicite. Et ce refus implicite, alors, vous autorise à soit revenir devant le préfet, on appelle ça un recours gracieux, pour essayer de lui expliquer que, manifestement, le préfet n'a pas tout compris, soit faire un recours hiérarchique et vous saisissez le ministre, mais... honnêtement, alors ces deux recours existent, mais ils aboutissent quasiment jamais, donc il vaut mieux, quand c'est comme ça, saisir directement le tribunal administratif. Et en l'occurrence, vous pouvez le saisir en référé, donc procédure d'urgence, hein, qui permet d'être reçu très rapidement. Et là, encore une fois, à partir du moment où vous justifiez d'une adresse sur le territoire français et que voilà, vous justifiez que l'enfant est bien, enfin demeure bien avec vous, il n'y aura pas de difficulté pour obtenir ce fameux document. J'ai une question qui m'avait été posée il y a pas si longtemps. J'ai une femme qui entre guillemets a galéré puisqu'elle a demandé ce document pour un enfant qu'elle a adopté dans le cadre d'une kafala. Je lui ai répondu ce que je réponds très régulièrement. En principe, l'exéquature n'est pas obligatoire. On en reviendra, enfin, on verra peut-être une émission que sur ça. L'exéquature n'est pas obligatoire puisque ça concerne ce qu'on appelle en droit l'état des personnes. Mais pour être tranquille et pour pas que l'administration vous embête pour pas dire autre chose, si vous avez une kafala, n'hésitez pas à faire exéquaturer. Parce que le temps d'expliquer à l'administration que l'exéquature n'est pas obligatoire, ça concerne l'état des personnes, et donc en principe, ils doivent vous donner raison, ça prendra le temps d'une procédure devant un tribunal pour une exéquature. Donc les personnes qui ont des enfants dans le cadre d'une kafala sont normalement devraient pouvoir bénéficier de ce fameux document, mais les autorités préfectorales les refusent.
C'est un document qui concerne les mineurs jusqu'à quel âge ?
Alors à partir de 18 ans, il faut savoir qu'ensuite vous êtes autorisé. Alors, à demander un titre de séjour, et il y a des exceptions. C'est-à-dire que si vous avez 16 ans et vous êtes en apprentissage, si vous êtes lancé, entre guillemets, dans la vie active, vous avez la possibilité de demander une carte. Enfin, comme un adulte. Mais sinon, enfin voilà.
C'est à partir de 16 ans. Hein.
Alors voilà, à partir de 16 ans, si encore une fois, vous justifiez d'être
une
apprenti.
Une situation professionnelle
voilà,
qui ouais, modifie votre voilà, statut.
Si vous êtes, entre guillemets, j'allais dire collégien, lycéen, vous ne pouvez demander à bénéficier d'une carte qu'à l'âge de 18 ans. Sinon, en qualité de mineur, entre guillemets, il faudra vous balader, entre guillemets, avec ce document. Encore une fois, c'est un document qui ne présente d'intérêt que si vous quittez le territoire.
Maintenant, celui oui, si vous ouais, circulez. Hein, voilà. Mais d'où le nom de document de circulation. Ce qui me surprend, c'est qu'on ne vous le demande pas à la sortie du territoire français. C'est-à-dire qu'on pourrait s'assurer, au moment où vous quittez le territoire français, que vous êtes bien en possession de ce document. Qu'on fait pas.
Non, mais vous savez, ça vaut aussi pour les personnes, souvent quand on a des personnes en situation irrégulière qui me disent, mais, ou alors qui ont une OQTF, mais si je franchis une frontière, qu'est-ce qui va se passer? Les autorités françaises n'ont pas cette obligation, entre guillemets, de s'assurer que vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de revenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous partez, c'est-à-dire quand bien même vous êtes en situation irrégulière, vous n'avez pas de billet, la France est prête à vous le financer. Donc, les autorités françaises ne sont pas là, mais ça, je peux le comprendre, pour vous dire, est-ce que vous avez bien tel ou tel élément pour revenir?
C'est-à-dire qu'en fait, ça les concerne pas.
Ah non, mais c'est exactement ça.
À partir du moment où vous quittez le territoire français, elles sont plus concernées.
Vous quittez le territoire français, je vais pas dire que les autorités françaises sont heureuses et contentes, mais voilà, c'est votre problème, vous le quittez. Après, effectivement, les problèmes, les emmerdements commencent au moment où vous revenez. Par contre, on est un peu plus pointilleux, et là, on va exiger ce document, et je le redis, si vous avez pas ce document, c'est une demande de visa. Et tous ceux qui ont déjà fait des demandes de visa connaissent le timing, donc c'est quand même très compliqué. Et je le redis, c'est pas parce que vous étiez en France en qualité de mineur depuis X temps que les autorités consulaires vont spontanément vous remettre un visa.
Si vous l'avez oublié, on peut envoyer un duplicata, j'imagine.
Si vous avez votre visa, vous, si vous avez le document, oui, là, il n'y a pas de difficulté.
On peut vous l'envoyer par mail.
Bien sûr, voilà, bien sûr. Ils ne sont pas non plus obtus à ce point. S'il est à la maison, vous l'avez oublié,
si vous n'avez pas fait la demande du document, qu'il faut
faire
la demande.
Ah oui, si vous n'êtes pas enregistré, si vous n'avez pas fait la demande. Donc, et je le redis, une demande de visa, c'est alors très, très compliqué, non, juridiquement, il n'y a pas de problème, mais il faut s'armer de patience.
Maître Serran, qui va répondre à vos questions dans un instant, et vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, vous connaissez le principe, question-réponse, question en direct, et vous les posez au 01 53 48 3000, question que vous posez à Maître Serran. Si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne pour des raisons de discrétion qui vous regardent, vous pouvez appeler aussi Maître Serran directement sur un téléphone portable.
Absolument.
Que vous communiquez, Maître Serran.
Immédiatement, oui. Au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Alors, nous avons Zara qui est avec nous. Zara, bienvenue sur Beurre FM.
Merci, bonjour.
Bonjour Zara.
Bonjour à vous deux. Je vous appelle parce que moi, je suis de nationalité française. Et j'ai recueilli une petite fille en vue d'adoption dans le cadre d'une kafala et qui est arrivée en France en juillet 2021. Donc avec un visa de 3 mois. Donc j'ai déposé tout de suite après en août 2021 une demande de DCEM. J'ai eu une réponse en mars 2022 me demandant d'actualiser le dossier et de tout refaire parce que le site de demande avait changé. Donc, j'ai tout refait le dossier et j'ai redéposé une nouvelle demande en mai 2022. Et en, bien sûr, après plusieurs mails et courriers et tout, vu la lenteur de la réponse, j'ai eu une réponse enfin le 14 décembre, stipulant un refus d'attribution de ce document. Pour le motif que la petite est rentrée en France avec un visa C et non pas un visa D. Or, ma demande qui a été faite au niveau des services consulaires en Algérie était bien une demande de visa long séjour, parce que ça n'existe pas de visa court séjour pour une kafala. Moi, j'ai eu ce visa C, j'avais pas fait gaffe, et puis comme j'étais restée très longtemps en Algérie, j'avais demandé un congé sans solde pour pouvoir régler tous les papiers et tout ça. Donc, je suis revenue. Il m'avait même demandé un billet de retour avant l'attribution du visa. J'avais donné un billet de retour et ils m'ont attribué le visa la veille de la date de départ. Donc, j'ai eu le visa le 29 juillet. Et je suis arrivée en France le 30 juillet avec un visa C. Et là, la préfecture me demande un visa D au lieu d'un visa C pour avoir ce document. Alors, est-ce que ce visa D est vraiment indispensable? Et pourquoi, dans ce cas, le service consulaire d'Algérie m'avait attribué ce type de visa? Je leur ai écrit un mail et même un courrier, bien évidemment, je n'ai pas eu de réponse.
C'est donc quoi la différence, Maître Serran, entre le visa
Vous avez un visa d'installation et un visa « je suis un touriste ».
Voilà,
à partir du moment où je suis un touriste, mon temps de présence sur le territoire français est limité, et puis il faut que je reparte, le visa d'installation.
Ouais. Et comme si, dans le cas d'une kafala, on demande un visa touristique pour un bébé.
Alors, c'est vrai que ça peut sembler curieux. Alors après, j'imagine que c'est l'argument qui pourrait vous être opposé, madame, en disant, mais attendez, dans l'hypothèse où il y aurait eu une erreur de notre part, vous, madame, vous ne l'avez pas relevé, cette erreur. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'ils peuvent, aussi jouer là-dessus. Maintenant, alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. C'est-à-dire que vous avez quand même la possibilité...
Et donc ça fait un an et demi que je suis
quand même
en France. Un an et demi en tout.
D'accord, mais le refus... Le dernier refus, il date de quand, madame ?
Il date du 14 décembre, là.
D'accord. Bon, vous êtes toujours dans le timing pour saisir les autorités préfectorales et le ministre. Alors, je pars du principe que l'explication telle que vous l'apportez devrait pouvoir permettre de rectifier les choses, mais je vous inviterai quand même à saisir le tribunal administratif, parce que si vous laissez passer un délai de 2 mois à compter de la réponse négative, on considère, entre guillemets, que vous acceptez la décision. Il faut savoir quand même que dans le cadre d'un recours, l'intérêt, c'est quoi ? C'est-à-dire que il y a, vous voyez, toute une série de conditions pour obtenir ce fameux document. Mais les tribunaux appliquent un principe qui est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire qu'on considère que dans l'hypothèse où il y aurait eu une mauvaise compréhension du ou des parents de l'enfant, où l'État français aurait pour de bonnes ou de mauvaises raisons refusé l'attribution de ce document, bah on considère que l'enfant n'a pas à pâtir de cette situation. Et en règle générale, les tribunaux prennent ça en considération. En gros, ça veut dire que même si je remplis pas toutes les conditions pour obtenir ce document qui permettrait à mon enfant, on va dire, d'être en situation régulière sur le territoire français, moi, tribunal, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire je ne veux pas que l'enfant subisse, entre guillemets, les répercussions d'une mauvaise loi, d'une mauvaise application de la loi ou d'une erreur, encore une fois, de la part du ou des parents ou de la part de l'administration française. Donc moi, tribunal, j'impose quand même aux autorités françaises de remettre ce document. Mais ça voudrait dire un recours de votre part. Alors, le délai, on va dire normal, avec de gros guillemets, c'est à peu près 1 année, mais rien vous interdirait d'engager une procédure d'urgence, on appelle ça un référé. Alors, il faut justifier l'urgence. Alors, l'urgence, en l'occurrence, ce serait quoi pour vous ? Ce serait éventuellement de dire que, je dis n'importe quoi, mais que vous devez vous rendre très régulièrement à l'étranger, et donc vous pouvez pas laisser l'enfant seul, donc vous partez avec votre enfant. Mais si vous ne pouvez pas justifier d'une quelconque urgence, dans ce cas-là, il faut tout de même vous armer de patience. Ça prend à peu près 1 année.
Ah ouais.
Ouais, c'est long. C'est long. Toutes les procédures devant les tribunaux administratifs, je suis en dehors encore une fois de l'urgence, mais dans des conditions très particulières. Mais en dehors de la procédure de référé, il n'y a pas de jugement avant 1 année.
Sur le site de la préfecture, c'est écrit que les délais sont de 3 mois pour la réponse. Moi, j'ai eu la première réponse au bout de 9 mois pour me dire qu'il faut tout refaire parce que ils avaient changé le site sans prévenir personne. Après, à partir du 1er janvier 2022, le site de demande avait changé. Bien sûr, tous les gens qui avaient fait la demande avant, eh ben, leur dossier était,
oui, il faut tout renouveler, comme ça, bien sûr.
Voilà. Et donc, la deuxième demande date de mai, donc ça fait plus de 7 mois. Donc, les délais sont très largement dépassés. Et là, ils me demandent un visa d'aide, alors que c'est une erreur de l'administration française. Moi, j'y suis pour rien. Et j'ai même la copie de demande de visa. J'ai gardé une copie, je ne sais plus pourquoi.
Alors, ce que vous dites est important, mais vous avez bien compris. On va rester sur, entre guillemets, la mauvaise foi de l'administration. C'est-à-dire que vous demandez un certain type de visa. Je vous accorde un visa qui ne correspond pas à celui que vous avez demandé, mais c'est tout de même inscrit sur ce visa. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi vous rétorquer, mais chère madame, puisque vous en aviez conscience, à charge pour vous d'examiner les documents que moi, administration française, je vous transmets, pourquoi vous ne l'avez pas signalé en temps et en heure ? Vous voyez, c'est-à-dire que ce que vous dites est un argument qui sera pris en considération, mais voilà ce que pourrait rétorquer l'autorité consulaire.
Oui, mais il n'y a aucun moyen de communiquer avec les services consulaires. Hein.
Non, mais est-ce que vous l'avez fait, madame?
Le visa, il vous l'envoie par
madame,
poste.
J'entends bien, mais quand vous avez regardé le visa et que vous avez pris conscience que ce
visa...
Moi, je ne
savais même pas ce que c'était.
Ouais, bah c'est toute la difficulté, encore une fois. Vous voyez, c'est-à-dire que, oui. Encore une fois,
Moi, j'ai vu un visa de 3 mois. J'ai vu visa de 3 mois. Ouais. Je me suis dit, j'ai le temps de déposer le dossier. Et je pensais que le DEM.
J'entends bien. C'était, vous savez, à partir du moment où on obtient un visa, j'allais presque dire, quelle que soit la nature du visa, rien que ça, c'est un soulagement. Et puis, on ne va pas chercher plus loin. C'est humain, c'est normal. Mais je vous dis juste que c'est un argument qui pourrait vous être opposé. Ce qui ne change rien sur ce que je vous ai dit auparavant, à savoir le recours devant la juridiction. Mais voilà, hein, il faut tabler pour avoir une décision sur un délai d'une année.
D'accord. Et pour tout vous dire, j'avais contacté un avocat et je lui avais envoyé j'avais imprimé le mail de refus qu'il m'avait envoyé la préfecture. Et il m'a dit que j'étais pas tenue parce que je lui ai demandé de le faire en urgence pour être dans les délais. Et il m'a dit que je ne suis pas tenue par les délais parce que l'administration de la préfecture n'avait pas notifié qu'un délai de tel jour ou de tel mois m'est donné pour faire le recours.
Alors, quand vous avez une réponse, quel que soit le domaine, pour les visas, un titre de séjour, peu importe, quand vous recevez une décision de refus, alors on est en dehors de ce qu'on appelle un refus implicite, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain délai, on considère que c'est un refus. Mais si vous recevez un écrit avec un refus, il y a l'obligation, et le confrère ou la consoeur a tout à fait raison, il y a l'obligation de vous notifier les délais de recours et les voies de recours. Si ces délais, si ces voies de recours, en gros, si on vous explique pas comment contester cette décision, effectivement, vous n'êtes pas tenu à des délais particuliers. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut, comme dirait l'autre, ne rien faire et se réveiller 2 ans après. Votre intérêt, que les délais soient indiqués ou pas, une fois que vous avez pris contact avec un avocat et que l'avocat vous a expliqué que vous pouviez saisir telle ou telle juridiction, votre intérêt est évidemment de le faire au plus vite. Mais ce que dit cet avocat est une réalité, c'est-à-dire que quand vous recevez une décision de refus et que l'État ne vous précise pas les conditions dans lesquelles vous pouvez contester ce délai, vous n'êtes plus tenu par les délais légaux. Même si vous l'avez dépassé, votre recours sera toujours recevable.
D'accord. Et il n'y a aucune autre alternative
Non, il n'y a pas d'autre option. Voilà, ce que font certaines personnes, je le redis, c'est terrible parce qu'on parlait de ce qu'on appelle l'exéquature d'une kafala, qui normalement devrait pouvoir être évitée, mais on sait que les autorités françaises appliquent la décision sans problème quand on fait exéquaturer.
Et comme vous l'avez dit, on fera une émission spécialement sur les exéquatures, Maître Serran. Merci Zara pour votre question. On prendra d'autres auditeurs dans un instant. Si vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serran, vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, vous posez vos questions juridiques à Maître Serran au standard, au 01 53 48 3000. Et nous avons Reda qui est avec nous. Reda, bonjour et bienvenue.
Oui, allô?
Oui, Reda.
Et bonjour Philippe.
Bonjour Reda.
Bonjour Maître et bonjour, meilleurs voeux à vous et à toute l'équipe de Beurre FM.
Merci également. Merci, Reda.
Alors, je voudrais commencer, j'ai 2 petites questions. Je commence par la première qui concerne le DCEM. Donc, je voulais poser la question à Maître s'il a remarqué que depuis 2022, les DCEM maintenant sont sur une feuille de 21-27. Alors avant, c'était sur une carte, donc c'est pas pratique. Donc est-ce qu'il y a un moyen de refuser ça ou
Non. 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 Ça bouleverse pas la donne non plus, si?
Mais à l'étranger, par exemple, moi je suis d'origine algérienne, quand on est parti en Algérie, à l'entrée du territoire algérien, donc on nous présente juste le passeport, mais pour le retour, quand on a présenté le papier, ils étaient un petit peu étonnés, donc il y a eu une enquête, il est parti voir son supérieur, et voilà, donc il nous a dit c'est bizarre, la France, elle vous délivre des titres de séjour sur une feuille 21-27 en noir et blanc, donc c'est un petit peu, c'est pas pratique.
Mais non, enfin voilà, il n'y a pas, entre guillemets, de possibilité de demander à ce que ce soit une carte ou un tout autre support.
Parce qu'avant celui-là, avant la feuille, pour ma fille, moi, on avait la carte.
Absolument.
Oui, on avait la carte. Et pour le renouvellement, on a obtenu une feuille 21-27.
Ouais, ouais.
Bah, bizarre. Donc, on n'a pas le choix. Donc, il faut
non, voilà, hein, ouais. Pour répondre à votre question, voilà, vous êtes tributaire de ça, c'est un document qui est officiel. Et donc, il n'y a pas la possibilité de contacter les autorités pour dire voilà ce qui serait plus pratique.
Ben parce qu'on a, je voulais contester là-bas la préfecture. J'ai dit, mais attendez, si je le refuse, on m'a dit, si vous refusez, vous restez sans. Mais je lui ai dit, plus ou moins, vous auriez dû procurer un papier, par exemple, d'une couleur différente, un papier glacé, avec un tampon qui est griffé. Il n'y a ni cachet, ni rien. Donc, photocopie de la carte de la petite sur la feuille 21-27, et c'est bon, voilà.
Enfin, ce qui est important, monsieur, c'est que le document soit officiel. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué dans votre cuisine.
Non.
Donc, ouais, moi, je peux comprendre les autorités françaises qui pourraient vous dire, attendez, vous êtes gentil, on vous donne le document. Alors, si en plus, vous exigez tel ou tel support, même s'il y a ce côté pratique, ça, je l'entends, je le comprends. Ouais. Mais voilà, c'est un document officiel des autorités françaises qui est valable, j'allais presque dire, partout dans le monde. Hein.
Je l'espère, parce que déjà on est parti pour la première fois avec en Algérie, donc ils n'étaient pas au courant, la PAF algérienne n'était pas au courant, donc il est parti voir.
Ah ouais, mais après c'est, comme dirait l'autre, la PAF algérienne, c'est-à-dire la PAF algérienne, même quand on est super carré, ils réussissent à vous faire pousser des cornes. Mais les autorités françaises sont pas responsables de l'incompétence de certains membres de la PAF algérienne, donc non, c'est un document qui est officiel, et d'ailleurs c'est même tout à fait vérifiable de la part de la PAF algérienne s'ils ont le moindre doute. Donc parfois ils aiment bien aussi j'allais presque dire embêter pour embêter, enfin tous ceux exactement. Qui partent et là, en Algérie le savent.
Et là on est obligé de le maintenir jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est ça?
C'est ça.
OK, parfait. Et j'ai une autre question pour un cousin à moi. Il est pas à Paris, il est à Nantes. Après une séparation, donc il était conjoint français, donc il a eu sa carte de résidence, il y a eu un divorce qui est en cours, il a un enfant. Il y a 48 heures de cela à peu près, donc son ex a porté plainte contre lui pour violence et menaces et harcèlement. Et qu'est-ce qu'elle a fait la police? Donc ils sont partis à son travail, ils l'ont arrêté. Ils l'ont gardé en garde à vue, ils l'ont pris en garde à vue pendant 24 heures. Et ils ont trouvé que la plainte était calomnieuse. Parce que la personne est sous contrôle judiciaire, donc il a un bracelet. Le matin, il ne sort pas. Et l'après-midi, il était au travail. Donc, ils l'ont relâché. Ils lui ont dit qu'il avait le droit de poser plainte contre elle. C'est ce qu'il a fait. Mais lui, la dame, quand elle a porté plainte, ils sont partis directement l'arrêter à son travail, mais lui, quand il a porté plainte pour dépôt de plainte calomnieuse, ils n'ont rien fait. Au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont gardé sa carte de résidence. Ils lui ont dit que le préfet vous la retirez sans qu'il soit notifié. Ils lui ont donné 48 heures pour une OQTF de 48 heures.
D'accord. Alors, il y a plusieurs choses. Que monsieur dépose une plainte pour dénonciation calomnieuse, c'est tout à fait légitime. Mais que la police n'aille pas chercher madame au domicile ou à son travail pour une dénonciation calomnieuse, on peut le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a été chercher monsieur? Parce qu'on considère, à partir du moment où madame, même si c'est un mensonge, dit mais il m'a violenté, il y a une sorte de hiérarchie. C'est, on va interpeller quelqu'un qui peut potentiellement être dangereux. Donc, je dépose une plainte pour dénonciation calomnieuse, ne vous attendez pas à ce que la police envoie un véhicule aller chercher l'intéressé. Mais la plainte est en cours. Alors, ce que vous me dites par rapport à cette OQTF est assez surprenant, parce que, bon, en règle générale, quand on est marié et qu'on a un enfant, même s'il y a une procédure de divorce, c'est entre guillemets l'enfant qui va protéger la présence du père sur le territoire français.
Exactement.
Donc, de deux choses l'une, si cette obligation de quitter le territoire lui a été notifiée en temps et en heure, et là vous me dites, il a appris qu'il avait que 48 heures pour contester?
Quand il était au commissariat, après la garde à vue, en sortant, la policière, elle a refusé de lui remettre sa carte résidence. elle lui a remis une décision de l'OQTF 48 heures.
Voilà. 48 heures pour alors, là, il faut faire attention parce qu'effectivement, c'est 48 heures au sens strict. C'est-à-dire que même si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié, les 48 heures comptent. Donc, alors pourquoi je dis ça? Bah parce que tous les avocats ne sont pas joignables un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Exactement. C'est aujourd'hui le dernier.
Voilà.
Le dernier
donc, jour. Il faut impérativement que son recours soit formalisé. Alors, il peut le faire lui-même s'il réussit pas à contacter un avocat, mais c'est impératif. Hein, c'est ce qu'on appelle un délai couperet. Au-delà, on considère qu'il accepte la décision. Et
Que c'est illégal? C'est pas légal, je pense, non?
Ben, qu'est-ce qui serait pas légal?
Ben, il n'a pas été notifié, il n'a reçu
non, mais vous dites qu'on vient de lui notifier au commissariat. Il était présent au commissariat.
Oui, mais au commissariat, voilà. Il était en garde à vue.
Ah non, monsieur, c'est légal. C'est-à-dire que vous êtes placé en garde à vue, je contacte les autorités préfectorales, on m'envoie l'obligation de quitter le territoire et mon obligation, à moi, policier, c'est de vous la remettre. Donc, ça vous est notifié. Donc, ça, c'est carré. Hein. Donc, là, c'est légal. Donc, le truc, c'est évidemment de contester en temps et en heure. Maintenant, il a un argument de poids. Si vous me dites qu'il a... D'abord, il a une procédure qui est en cours et le divorce n'est pas encore prononcé, mais son passeport diplomatique pour votre ami, c'est l'enfant. À partir du moment où il a un enfant commun, on est d'accord, madame est de nationalité française?
Française, oui.
Bon, ben donc, voilà, il sera protégé par rapport à son enfant, mais il serait bon pour lui de le contester en temps et en heure.
C'est ça. Mais est-ce que il peut contester, donc il peut faire jouer la carte de l'enfant? Même si l'enfant n'a pas de pièce d'identité actuelle. Il a juste un acte de naissance.
Peu importe, c'est-à-dire qu'on a bien un acte de naissance qui dit que ce monsieur est le père de l'enfant.
C'est ça.
Voilà, donc à partir du moment où
la maman, comme elle est maligne, elle a refusé de faire la carte de la petite.
Mais c'est pas grave. Ouais. L'enfant est français par rapport, je veux dire, de facto par rapport à sa mère, donc il est bien le père d'un enfant français.
Exactement.
Bon, bah donc il y a pas de problème, mais voilà, le cet argument doit être invoqué en temps et en heure.
OK.
Parfait. Et vous me dites que le délai expire quand? Demain?
Aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui.
D'accord. Et il a pas fait la moindre petite démarche pour l'instant?
Il court à droite et à gauche, et comme c'est un petit village, donc il essaie de voir. Moi, je lui dis, essaie de voir avec d'autres avocats, même si c'est pas... Parce que lui, il est à Angers. Je lui dis, même si c'est pas à Angers, ben, regarde ailleurs, même ici à Paris, si tu veux.
Ben, il peut le faire n'importe où, mais il faut qu'il le fasse. Sinon, après, c'est terminé. Donc, ça va ensuite lui compliquer la vie.
Ben, je vais l'appeler maintenant, et je vais lui communiquer vos coordonnées, dans le cas où, je sais pas. Non?
Ben écoutez, voyez ce qu'il en est, que ce soit avec moi ou un autre confrère, mais si ça expire aujourd'hui, c'est aujourd'hui minuit, donc
il faut faire vite. De toute façon, vous n'avez rien prévu cet après-midi, Maître Serrade?
Non.
Hein, vous n'êtes pas en train de faire du vélo au bois?
Non, j'ai fait ça la semaine dernière.
D'accord, non, mais je ne voudrais pas gâcher votre après-midi.
Non, vous ne gâchez rien du tout.
D'accord.
Ah non, il est serviable, il est trop serviable. Déjà, le fait qu'il vienne à la radio, il nous explique, donc voilà, c'est...
Je vous remercie, ça fait plaisir à entendre. Merci. Merci à vous.
C'est très gentil. Merci beaucoup.
Merci, Reda, pour votre appel.
Merci, Philippe.
Au revoir.
Merci.
Vous voyez qu'il y a des gens qui vous aiment bien, Maître Serrade.
Oui, il y en a deux, trois quand même.
Ouais, il y a deux, trois personnes qui vous aiment bien. Ah. Alors attendez, voilà, l'imam Abdelali Mamoun arrive, il gratte de
l'antenne. Non, moi, et juste pour dire que je kiffe à mort,
c'est quoi,
Maître Serrade.
C'est quoi comme mot, ça, kiffe
Ça veut dire une brief death.
C'est-à-dire qu'un imam, ça dit, je kiffe.
Ouais. Je kiffe.
Mais ça, c'est notre
avocat. C'est excellent. Il vient d'arriver.
Excellent.
Une gentillesse immédiatement. Voilà. Et un visage radieux et un sourire. Ça fait plaisir de voir ça.
Écoute, salam alaykoum à toi, à tout le monde, à Philippe, à Foudil. Foudil.
Tiens, il y a quelqu'un qui voudrait parler. Ah, tu voulais pas
Et là, j'ai le timide.
Ah, il fait le timide. Moi, j'ai cru qu'il voulait nous adresser un message au monde entier, tu vois. Mais non, même pas. Donc, l'imam Abdelali Mamoun, que vous retrouverez dans un instant, pour l'islam au présent. On est très court au niveau du temps, Maître Serrade, même s'il est très rapide et très gentil, pourra pas. Est-ce que Foudil, qu'est-ce qu'on fait? Oui, non, oui. Alors tu me dis oui. Alors on va prendre Nasser. Non, Nasser. Nasser, bienvenue.
Oui, bonjour, merci Philippe, merci pour ce que vous faites pour l'émission qui est d'utilité publique, c'est sympa. Ouais, et voilà. Bonjour à Maître Serrade et à tous les
autres. Bonjour Nasser. Ravi de vous accueillir.
C'est gentil. J'ai juste une question. Bon, je ne sais pas si elle est compliquée pour moi, mais bon, moi, je suis de nationalité algérienne. J'ai 60 ans, je suis grand-père. Et ça fait 40 ans que je suis en France. Là, depuis un moment, j'ai préparé mon dossier qui pèse plus d'un kilo pour une naturalisation. Tous les écrits de naissance, les actes de décès, toute la fratrie, les parents, les enfants, tout le monde, quoi. Quasi judiciaire, tout. Maintenant, le souci, c'est que je me suis déplacé à la préfecture et on me dit que c'est pas complet, il faut pas le déposer tout de suite, c'est pas complet, parce qu'il m'exige, je sais pas si c'est normal ou pas. Des justificatifs de travail ou de, alors que ça fait depuis pratiquement 3 ans et demi, je ne travaille pas et je n'ai plus d'indemnité. Ils me demandent des fiches de paye, tout ça. Quelle est la solution?
En fait, c'est une question qui est légitime. La question est de savoir de quoi vivez-vous. Ouais, si vous arrivez à répondre à cette question. Le fait que vous soyez un actif ou pas, peu importe, mais on demande quand même à ce qu'il y ait un minimum entre guillemets de revenus, alors que ce soit le vôtre. Alors je sais pas,
ça peut être une rente.
C'est ce que j'allais vous dire. Ça peut être une rente, ça peut être l'épouse, enfin peu importe. Mais il faut pouvoir justifier de ce qui vous permet de vivre au quotidien.
D'accord. Donc, officiellement, sur un papier, je n'ai aucun justificatif.
Ouais.
Mais bon, on vit de la solidarité familiale et de l'argent que j'ai mis de côté un petit peu.
Alors, de l'argent mis de côté, il n'y a pas de difficulté. Vous pourrez en justifier sans aucun problème. La solidarité familiale, alors ça peut s'interpréter largement. C'est-à-dire qu'il faudrait à minima, dans ce cas-là, éventuellement des attestations des uns et des autres pour dire que, ben voilà, on verse régulièrement, tous les mois, la somme de...
Ça se fait, hein. De toute façon, ça se fait.
Ah oui, bien sûr,
hein.
bien sûr.
Ça se fait, hein. C'est un document qui existe.
Bien sûr.
Alors attendez, parce que là, Nasser, Maître Serran a besoin de beaucoup plus de temps pour.
Ouais, là, c'est un peu rapide.
Pour vous répondre. Vous pouvez noter le numéro de Maître Serran, Nasser? Ou pas?
J'ai même fait mes courses.
Ah bon, bon, ça va. Donc, c'est parfait. Donc, vous appelez Maître Serran d'ici une petite heure.
Ah, vous
pouvez m'appeler sur le portable, voire deux quand même. Peut-être deux heures.
Parce que
là, je pars en rendez-vous.
Et vous pensez que c'est un problème qui est surmontable?
Oui, c'est tout à fait surmontable. Bon. Mais vous pouvez m'appeler tout à l'heure si vous voulez, on en parlera tranquillement.
Deux heures, Maître
Serran. Voilà, d'ici deux heures.
À demander. Bon, merci Maître Serran. Nasser, donc Maître Serran vous récupère d'ici deux heures. Vous serez là samedi prochain,
Inch'Allah.
Maître Serran. Pour de nouvelles aventures radiophoniques.
C'est le Ramadan samedi prochain, non, ou pas encore?
Non, c'est la semaine d'après.
Ah, c'est la semaine d'après, d'accord.
Plus les taxes.
c'est
vous avez préparé votre chronique?
Pour
le mois de Ramadan.
Mais vous savez très bien que je n'interviens jamais pendant le mois du Ramadan, je ne veux pas froisser les oreilles de nos auditeurs.
C'est pas beau de mentir. Dans un instant, l'imam Abdelali Mamoun, qui ne ment lui jamais, sera là avec nous pour l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.